d'autres partagent, si je peux dire, dirigés dans le sens que ça serait des témoignages aussi de vie, que ça pourrait être intéressant d'entendre comment est-ce que Dieu a œuvré dans la vie d'un frère ou d'une sœur et puis comment est-ce qu'il a conduit à travers la souffrance. Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? Mais on a vu, premièrement, que dans la souffrance, on n'aura pas toujours des réponses. On n'aura pas toujours les réponses à la question « Pourquoi est-ce que je vis la souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? » On voyait ça avec Job, mais on voyait que Dieu est souverain. On a vu aussi que la souffrance est une sonnette d'alarme. Non seulement notre corps est un exemple de la souffrance qui nous donne un signal d'alarme, mais la souffrance en général sur le monde ou quoi que ce soit nous emmène à considérer que le monde est malade, que l'humanité est malade, que je suis malade et que à cela nous emmène à considérer un problème beaucoup plus profond que ce que la souffrance comme telle dégage. Et ce soir, ce qu'on voit, c'est que la souffrance est un moyen que Dieu utilise pour nous guider, pour nous conduire. L'idée que la souffrance peut nous éloigner de Dieu, soit nous ou bien de nous attirer à lui, nous amène à réfléchir. Est-ce que la souffrance va me conduire à Dieu ou va m'éloigner de Dieu? On en a déjà parlé, on a déjà posé la question. Pour certains, la réaction, pendant un temps, même pour certains enfants de Dieu, pour des enfants de Dieu, peut-être même pendant un temps, l'éloigner de Dieu, l'éloigner de son Père. Et on connaît bien quand même qu'un enfant de Dieu va éventuellement revenir à son papa céleste, mais des fois, ça peut être un détour qui fait encore plus mal. Dieu utilise la souffrance pour nous guider. C'est ça qu'on va voir ce soir. La souffrance a cette façon bien à elle de mettre à nu notre fragilité. Elle nous force à revoir nos priorités, nos valeurs, nos buts, nos rêves, à remettre en question nos plaisirs, notre source de motivation et les relations que nous entretenons avec les autres et avec Dieu. La souffrance nous amène nus devant Dieu. Elle nous montre tel que l'on est. Et dans cette remise en question-là, dépendamment de peut-être de l'intensité de la souffrance, on a à s'évaluer et à prendre la main de Dieu à partir de ce moment-là et à se laisser guider. À partir du moment où on remet en question ce que je viens de nommer, soit les priorités, les valeurs, les buts, les rêves, nos plaisirs, nos sources de motivation, nos relations. Et la souffrance nous contraint à examiner la tournure que prend notre vie. Peut-être qu'on est à un point où on vit quelque chose et qu'on vit une souffrance, et c'est peut-être un moyen que Dieu utilise pour qu'on examine la tournure de nos vies. Vers où on s'en va? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est-tu en train de prendre un chemin que Dieu veut qu'on utilise? Et ça se peut qu'à travers la souffrance, que Dieu utilise ça pour nous conduire, pour nous transformer, évidemment. Nous pouvons choisir de nous lamenter ou bien de se contenter. On pourrait dire ça comme ça. Soit qu'on peut se lamenter sur notre sort, se plaindre de ce que l'on vit, ou prendre une autre tournure puis d'utiliser à profit l'épreuve qu'on est en train de vivre ou la souffrance qu'on est en train de vivre pour être guidé par Dieu. Alors, on peut choisir de se lamenter en nous concentrant sur les difficultés du moment ou choisir d'espérer en considérant le plan à long terme que Dieu a pour nous. J'aimerais vous inviter à tourner dans Matthieu 27. Alors, attendez un petit peu, tournez pas tout de suite. Ça ne me tente pas que vous me donniez toutes les bonnes réponses tout de suite. Je veux savoir ce qu'il y a dans votre compréhension. On va faire un mot de prière quand même avant, que Dieu nous conduise dans sa parole et dans nos réflexions. Puis après ça, on va rouvrir les Écritures ensemble. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu fidèle. Tu es le Père de toute consolation, le Dieu de toute consolation. Et c'est ça qu'on veut se rappeler ce soir, Seigneur. Oui, chacun d'entre nous, on a vécu, on va vivre, on vit des souffrances. Et à travers ces événements de nos vies, Seigneur, qui peuvent être sombres, on veut ouvrir ta parole. On veut fixer nos yeux vers toi et on veut disposer nos cœurs, nos têtes, notre esprit, Seigneur, à ta personne. On veut se rendre vulnérable, Seigneur, à toi pour que tu nous prennes dans tes mains, que tu nous donnes du repos et que tu nous conduises aussi, même à travers ces moments-là. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Je viens de vous dire que dans la souffrance, que Dieu peut utiliser ça pour nous guider. Dieu comprend-il la souffrance pour avoir la capacité de bien nous guider à travers elle? Je lance la question. Dieu comprend-tu vraiment c'est quoi la souffrance pour avoir la capacité, je pose la question au plus humainement possible qu'on peut la poser. Est-ce que Dieu comprend ma souffrance pour qu'il ait la capacité de me conduire à travers elle ou par elle? Claude. OK? Jésus a souffert. On en a déjà parlé en bribe, mais Jésus a souffert. Exactement. Oui, Claudette. Oui. Oui, oui. Absolument. Est-ce que Dieu comprend la souffrance qu'on vit? Quand vous êtes dans souffrance, là, est-ce que Dieu vous comprend? Oui? Oui, on peut répondre ça. Oui, Dieu vous comprend. Oui, Dieu me comprend quand je vis de la souffrance. Il le sait, c'est quoi la souffrance. Tournez avec moi dans Matthieu 27. On aurait pu trouver différents exemples de la compréhension que Dieu a de la souffrance. À travers le texte qu'on voit de Matthieu 27... comment t'as dit ça?
Il comprend tellement que vendredi soir, samedi dans
la nuit, il a donné des textes à Paul. OK. OK, à Paul, je pensais que tu parlais Paul l'apôtre, là, mais Paul le simple homme, là. excuse-moi, Paul. Oui, Paul, ben exactement. Alors, Dieu a été sensible à ce que Paul vivait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, OK, oui, merci Normand, absolument. Matthieu 27, on va lire les versets 45 à 50. Quelqu'un qui voudrait lire ça, s'il vous plaît? OK, Claude. On appelle cette journée-là le Vendredi Saint, la journée où Jésus a été crucifié et où il a rendu l'Esprit. Est-ce que c'était une journée sombre? C'était une journée sombre dans l'histoire de l'humanité. Il n'y avait pas grand-chose de saint, mis à part, on va comprendre par extension, par la suite des événements, que c'est un vendredi qui nous apporte certainement la paix et qui nous apporte beaucoup de joie. Mais quand on se transpose dans cette journée-là, c'était une journée sombre. Et Jésus est au centre de cette journée sombre. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il faisait noir, des ténèbres sur toute la terre. Vers la neuvième heure, Jésus s'est écrié. Qu'est-ce qu'il a crié à son Père? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que ça témoigne dans ce cri-là que Jésus est sur la croix? Qu'est-ce que ça témoigne? Séparé avec son Père? Oui, une souffrance qui pouvait aller jusque dans le plus profond de son être où il s'écrie à son Père, « Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? » Oui, la souffrance d'une relation brisé avec son Père à cause du péché, nos péchés, qui étaient sur lui. Pourquoi tu dis ça?
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Est-ce que son père l'a abandonné?
Non, il l'a pas abandonné, mais il
l'a quand même passé. OK. Il a été réellement séparé d'avec son père. Oui, à cause du péché, absolument. Est-ce que Dieu abandonne, comme on parlait, mettons, de Job? Est-ce que Dieu avait abandonné Job au sens absolu du terme? Non. Mais Jésus, dans le fond, si on parle de tous les aspects de la conséquence du péché, c'est non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, et effectivement, la séparation avec son père, il a réellement été délaissé. Et des fois, on peut s'imaginer qu'on est seul hein, dans notre souffrance. On peut s'imaginer qu'on est seul au monde. On peut s'imaginer qu'on n'est pas compris. Puis ça, ça serait une erreur. Parce qu'on n'est jamais seul. Si humainement on est seul, Dieu est là. Puis il prend soin de nous. Dieu, il sera toujours là. Mais s'il y a une personne sur toute la terre qui a été réellement seule, c'est bien Jésus. Abandonné de son père. Et des hommes qui se détournaient de lui, qui n'avaient plus confiance, et étaient abandonnés. Est-ce que Jésus comprend la souffrance? Absolument qu'il comprend la souffrance. Probablement qu'il l'a vécu à un degré bien plus élevé que ce que jamais on vivra. Puis le père, exactement comme tu disais, Claudette aussi, le père aussi a été séparé de son... Imaginons pendant un instant, pendant l'éternité, infini. Il y a une brèche dans cette éternité-là où le Père et le Fils ne sont plus en relation à cause de nos péchés, où la relation a été brisée. J'ai vu différentes mains levées, là. Claudette, après ça, Renan. Non, oui. C'est ça? Oui. 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 Absolument. Et il y a des aspects probablement de la souffrance qu'on ne comprendra jamais. Si, humainement, comment je pourrais dire ça? Humainement, il y a d'autres humains qu'on n'est pas capable de sentir. Hein? Mais lequel des humains est attachant, concrètement, à cause du péché? Dieu, en venant, en quittant son trône et en venant sur la terre, est venu dans un monde de pécheurs. Et je ne suis pas plus reluisant que ceux que j'estime pires que moi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et même nous, peu importe comment est-ce qu'on peut s'imaginer, on n'était pas un lieu intéressant pour Dieu de venir. Dieu et Jésus connaît nos pensées, il entend nos cœurs, il entend nos pensées. Et le péché est souffrant pour Dieu, qui est le contraire de sa volonté. On ne sait pas tout ce qui a passé dans son cœur. Est-ce que Dieu comprend la souffrance? Absolument. La réponse, c'est absolument. C'est plus que oui. Oui, Renan. Oui. C'est ça. La coupe. C'est ça. Ouais. Et les souffrances de la croix au sens charnel, si je peux dire, sur la chair, je les place bien petites comparativement aux souffrances de séparation avec son père qu'il pouvait vivre. D'après moi, c'est là que venait son agonie. OK, Claude, après ça, Pauline, on va continuer d'avancer. Un psaume messianique qui annonçait, oui. Oui, absolument. Alors, est-ce que... Vas-y, Jean-Pierre, après ça, on continue, vas-y. Oui. Et c'est ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être vigilant même d'avoir cette attitude négative-là de s'éloigner, mais de se rapprocher. Parce que Dieu nous conduit dans le sens. Il y a beaucoup de commentaires, hein? J'ai besoin de rattraper tout ça, là. Mais il y avait Madame Richard, et après ça, Normand. Après ça, c'est vrai, on avance. Oui. Oui. Il va y avoir de la souffrance pour les gens qui l'auront rejeté. Oui, absolument. Et c'est ça, exactement. Et là, c'est une souffrance qui est beaucoup plus triste parce qu'elle va être perpétuelle aussi, là. Oui, Norman. Oui. Oui. Ouais. Il y a des choses absolument que dans la souffrance que Dieu veut nous témoigner. Peut-être que, comme je disais tantôt, la souffrance a cette façon bien à elle de révéler ce qu'on est vraiment. Et peut-être que c'est de l'impatience, peut-être que c'est un manque de foi, peut-être qu'il y a bien des choses. Est-ce que Dieu peut nous laisser dedans pendant un temps dans la souffrance? Sans qu'on ait de réponse, comme Job, il disait, ben, je crie à toi, là, descends, là, qu'on fasse un procès, là, qu'on puisse s'expliquer. Et puis, mais je pense qu'il faut revenir souvent à la foi est synonyme d'attendre. On est attendri. Oui. Oui, absolument. Mais justement, à travers ce que je voulais apporter, à travers le texte de Matthieu 27, c'est que cette journée sombre que Jésus a vécue, de un, on peut comprendre, on peut savoir que Jésus comprend la souffrance. Puis ce que je veux amener, c'est que Dieu nous conduit à une espérance aussi. À une espérance. Parce que la journée du Vendredi Saint, c'est quand même transformé à un dimanche matin de résurrection. Et ça, c'est si Jésus a vécu cette souffrance-là le vendredi, mais le dimanche, il était ressuscité. Dieu nous conduit à une nouvelle espérance. Concrètement, c'est il nous conduit les yeux vers le haut, à espérer. L'espérance est quelque chose qui tournait avec moi dans Hébreux 6. On va lire trois versets. Si le jour de la crucifixion est une journée sombre, la résurrection a donné à la crucifixion un sens totalement inédit. Au lieu d'être un jour de défaite, le jour de la crucifixion est devenu un jour de triomphe. Nos péchés ont été pardonnés par la mort de Christ, mais la résurrection confirme tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais cette journée sombre s'est tournée en un jour de défaite. La souffrance de Christ s'est tournée en un jour de triomphe. Vous souvenez-vous, c'était quoi la prophétie que Dieu avait faite à Adam? Tu vas y écraser la tête, il va te mordre le talon, mais tu vas y écraser la tête. Certainement qu'il y a eu un instant de souffrance, mais ce moment de souffrance-là était aussi un moment de triomphe. La souffrance que Dieu permet que ses enfants vivent nous conduit vers une espérance, nous conduit à lever les yeux. Quand je suis dans la souffrance, c'est quoi que je fais? Dieu veut que je lève les yeux. Dieu veut que j'alimente, que je sois motivé par l'espérance qui est bien plus élevée que les circonstances. C'est quoi mon espérance quand je suis dans une circonstance souffrante? Bien, humainement, ça serait qu'elle se termine. Hein? On veut que la souffrance arrête. C'est ça notre espérance humaine. Mais Dieu nous conduit à David c'est pas la fin de la souffrance que je veux que tu aies de cette espérance-là. C'est la fin de la souffrance absolue. C'est l'espérance éternelle que tu as. Et Dieu nous emmène à aller plus loin même dans notre espérance, dans notre relation, dans notre foi avec lui. Ça sera pas long, Michel, je veux juste qu'on lise Hébreux 6, les versets 17 à 19. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est qui ça? Bon, c'est nous autres. L'immuabilité de sa résolution. Dieu a pris une résolution et est-ce qu'elle va changer cette résolution-là? Non, ce qui est immuable ne change pas. Il intervient par un serment afin que par deux choses immuables. C'est quoi ces deux choses immuables? Dieu lui-même, ne pouvant faire un serment que par quelqu'un de plus grand que lui, il fait un serment par lui-même et le serment lui-même. Alors, par deux choses immuables, c'est-à-dire lui et le serment, qui est la résolution qu'il a fait, verset 18, fait que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions quoi? Un puissant encouragement. Est-ce un petit encouragement? Est-ce que Dieu veut vous donner un petit coup de pouce? Oh, lâche pas. C'est un puissant encouragement que Dieu veut nous donner en nous faisant lui-même la promesse. Nous, dont le seul refuge a été de saisir quoi? L'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons, comment? Comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'espérance à laquelle Dieu veut nous conduire, c'est pas l'espérance que la souffrance dans laquelle je suis présentement va s'estomper ou elle va arrêter. Ça se peut que je meure dans la souffrance. Mais ça, c'est pas la fin, c'est pas l'accomplissement de ce que Dieu veut nécessairement faire dans ma vie. Mais il veut me conduire à une espérance éternelle. Une espérance que je trouve en Jésus, que je trouve dans ma relation avec Dieu. Et quand on est mis à nu dans la souffrance, Dieu me dit, « David, est où ton espérance? » Et Dieu me conduit à lever les yeux. Michel, tu voulais dire un commentaire tantôt? Oui. Exactement. Et c'est là le point exactement de ce que je veux répondre à la question « Pourquoi Dieu permet la souffrance? » C'est parce que Dieu l'utilise pour te conduire, pour me conduire. Et quand que je suis nu dans la souffrance devant lui, puis que je m'abandonne à lui, ben Dieu me conduit peut-être dans des chemins que je n'aurais pas pris en temps normal, et que là, je me laisse conduire par lui. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La plus grande souffrance qu'on pourrait imaginer, que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Comprenez-vous le parallèle qui est donné? La souffrance versus la gloire. La souffrance présente versus la gloire à venir. Ces deux choses-là ne peuvent pas être comparées. En quoi est-ce que Dieu est en train de nous encourager par ce verset-là? Je vis des souffrances, mais je dois me rappeler qu'au ciel, la gloire que Dieu réserve dans son espérance n'est pas comparable à l'inversement proportionnel de ce que pourrait être la souffrance. Elle ne sera jamais proportionnelle. On ne peut pas la comparer. Dieu nous conduit à une nouvelle espérance. Dieu ne prend pas à la légère les souffrances du croyant, mais lui demande de voir ses souffrances du moment à la lumière de l'éternité. Bien sûr, nos problèmes peuvent être graves, puis même écrasants, mais Dieu affirme que comparé aux gloires inouïes réservées à ceux qui aiment Dieu, même les pires événements de la vie ne seront rien comparativement à la gloire à venir. Dieu nous conduit dans l'espérance qu'on vient de voir, dans une nouvelle espérance, mais Dieu nous conduit dans une nouvelle confiance en lui. Dans une nouvelle, j'emploie le mot nouvelle parce que peut-être c'est un aspect de la confiance ou de la foi qu'on n'avait pas encore exploré. Tournez avec moi dans Hébreux 11. On est déjà dans Hébreux. Qu'est-ce qui détermine nos réactions? Qu'est-ce qui détermine qu'on va s'éloigner ou qu'on va s'approcher? On pourrait résumer ça à un mot. Qu'est-ce qui détermine qu'on va s'éloigner ou s'approcher de Dieu? C'est quoi? La foi. C'est la confiance. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se tourne vers Dieu et qu'une autre se détourne de Dieu? C'est la foi. Je nomme des personnages. Abraham, Jacob, Moïse, Joseph, Noé, David, Esther, Ruth, Naomi. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces personnages-là? La foi puis la souffrance. Elle dit, d'accord, on pense à ces personnages-là, puis on, hey, c'est des héros, tu sais, c'est des grands de la terre, c'est des grands pour Dieu, puis, mais quand on examine leur vie, là, Moïse, là, fait combien de temps dans le désert? 40 ans fois 2? 80 ans? Puis il est mort où, Moïse? Hein? Est-ce que Dieu l'a conduit, cet homme-là? Absolument qu'il l'a conduit. Il y avait la foi aussi en Dieu. Abraham, est-ce qu'il y a eu une vie facile aussi? Il y a eu toutes sortes de rebondissements, hein? Mais il y a eu la foi. On pourrait parler de David, hein? On parle du roi David, l'homme au cœur selon Dieu. Mais David, est-ce qu'il y a eu une vie en rose? Il y a eu une vie compliquée, hein? Il a perdu plusieurs de ses enfants. Il a perdu beaucoup de choses. Il a été poursuivi par Saül. Il a eu toutes sortes de difficultés. Quand on lit David, on réalise qu'il y en a eu du trouble dans sa vie. Est-ce que Dieu l'a conduit? Oui, Dieu l'a conduit. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il avait foi en Dieu. Puis toutes les autres personnes, Esther, Ruth, Naomi, Jacob, Joseph, Noé, c'est tout du monde qui, quand on prend le temps de regarder dans le fond leur vie, on réalise que leur vie, pour plusieurs d'entre eux, est caractérisé par la souffrance, mais qui ont été conduits par Dieu parce qu'ils avaient foi en lui. Hébreux 11, un bon temps que vous allez lire les versets 32 à 38, s'il vous plaît. OK, Renan. Non, pas, on peut lire le verset 40 tant qu'il est parti. OK. Il y a des gens par la foi qui ont vécu des choses formidables. Ils ne semblent pas avoir vécu la souffrance, hein, juste par les petits bouts qu'on voit, là. Évidemment, ils en ont vécu, là. Mais juste les petits bouts qu'on voit, là. Il y en a qui vainquirent des royaumes, verset 33, ils exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, recouvrèrent leur mort par la résurrection. Il me semble qu'il y a du monde que ça allait bien. Et tout ça par la foi. Ils étaient conduits par Dieu, eux aussi, parce qu'ils avaient la foi. C'est tout le contexte d'Hébreux 11. Mais là, il va y avoir une autre énumération, le verset 35, qui est coupé en deux. Puis là, on se met à parler d'une autre catégorie de gens ou qui ont vécu des circonstances différentes, mais qui font partie du même paquet de ce qu'on vient d'énoncer. Il y en a d'autres qui ont été livrés au tourment, ils n'ont pas accepté de délivrance pour une meilleure résurrection, subir des moqueries, le fouet, des chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés, tués par l'épée, errants, vêtus de peau, de chefs dénués, nus, persécutés, maltraités. Puis ces gens-là étaient avec quoi? Ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient foi en Dieu. Puis Dieu les a conduits. Qu'est-ce que Dieu avait décidé pour ces gens-là? Dieu avait décidé autrement pour un groupe de personnes qu'on voit au début, puis autrement pour un autre groupe. Mais est-ce qu'on a la foi et la conviction que Dieu est au contrôle dans toutes ces circonstances-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté des conditions de vie humaines semblables à ça, ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté d'être torturés? Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté d'être sciés? Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté d'être persécutés, d'obtenir la moquerie? Pourquoi ces gens-là ont accepté ça? Ils avaient une espérance, absolument, oui? Oui. Oui. Ces gens-là, on a témoigné de leur foi. Ces gens-là, qui étaient dans des moments de souffrance, sont morts tout en ayant foi et confiance en Dieu. Parce que leur espérance n'était pas d'obtenir nécessairement une libération sur la terre. Mais pour aller jusque-là, pour aller jusqu'à au paroxysme de la souffrance de ce qu'ils pouvaient vivre, ils ont gardé la foi. Ils ont gardé confiance. Et dans ces moments-là de souffrance, je crois que Dieu nous apprend à lui serrer la main de plus en plus fort et à le marcher auprès de lui de plus en plus près et à lui faire de plus en plus confiance. Et peut-être que des fois, Dieu est obligé de nous amener à nous enlever toute forme de contrôle que ce qu'on peut avoir sur nos vies pour que finalement, on abandonne tout contrôle entre ses mains, qui avait déjà de toute façon entre ses mains au point de départ. Puis on pensait avoir un contrôle sur quoi que ce soit. Dieu nous conduit dans une nouvelle espérance, dans la souffrance. Par la souffrance, Dieu peut nous conduire aussi à une nouvelle confiance, à un nouvel aspect de la foi qu'on va développer à travers lui. Et il me reste 1 minute 15 secondes pour voir le dernier. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens. C'est des textes qu'on connaît bien de toute façon. Ça va nous donner l'occasion de commenter. Puis on l'a cité tantôt. 2 Corinthiens 12. Versets 7 à 10. Je vais lire à partir du verset 5 plutôt. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Au verset 8, Paul décrit ses prières pour obtenir la délivrance. Des prières qui se sont heurtées à une réponse négative. 3 fois j'ai prié le Seigneur qu'il l'éloigne de moi, cette écharpe dans la chair. Paul, il voulait arrêter de souffrir. Il voulait que cette écharpe-là s'en aille. Puis Dieu lui a dit non. J'ai une question pour vous autres. Comment la grâce peut-elle être un meilleur exaucement à la prière de Paul que ne l'aurait été la guérison? Comment la grâce était un meilleur exaucement à la prière de Paul que l'aurait été la guérison? Paul, il priait, là, il demandait à Dieu d'un exaucement, de sortir de la souffrance. Puis Dieu, il a dit, non, j'ai un meilleur exaucement pour toi, je te donne ma grâce. Oui, vas-y, Yvan. Il devait dépendre uniquement de Dieu. Dieu nous conduit à une nouvelle dépendance. De quoi on était dépendant avant la souffrance du péché? Il y a bien des choses dans nos vies qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dépendant. Mais dans la souffrance, Dieu nous emmène à une nouvelle dépendance de sa personne. Dieu a dit à Paul, non, Paul, tu as un problème. Et puis, je vais la laisser là, ton écharpe. Mais ma grâce te suffit. Il y avait Renan qui veut lever la main? Ouais. 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 Ouais, absolument. Was it Claude? Oui. Oui. Est-ce que ça se peut que dans nos souffrances, on prie Dieu, puis qu'en plus Dieu ne nous exauce pas à ce qu'on lui demande? Ben oui. C'est ça qu'on vient de voir. On a-tu déjà considéré qu'un non-exaucement à notre prière soit une bénédiction? Peut-être, hein, on devrait voir ça comme ça. En tout cas, avec l'exemple de Paul, c'est ça que Dieu nous témoigne. Paul, c'est non. Mais j'ai un meilleur exaucement. Et Paul, il devait avoir confiance en Dieu. Comme nous, on doit avoir confiance en Dieu de dire, Dieu, OK, tu me dis non, on me reste une deuxième, une troisième fois, après ça, ben, je persévérerai pas dans la prière. On aurait pu dire pourquoi Paul n'a pas continué, mais il a compris, il a fait confiance à Dieu que ce que Dieu lui avait répondu, que ma grâce te suffit, c'était vrai. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Je pose une question, puis je vais peut-être... Oh, oui, vas-y, Claude. C'est ça. Ouais. Si on est dépendant de nous-mêmes, on est dépendant de d'autres circonstances, dépendant de gens autour de nous, puis qu'on ne dépend plus de Dieu, comment est-ce que Dieu se glorifie? Et Dieu nous en peut nous enlever toute ressource à travers la souffrance et nous conduire dans la dépendance de sa personne. C'est ce qu'on devrait apprendre, même si on n'est pas dans la souffrance, hein? Pas besoin de la souffrance pour comprendre ça non plus puis le mettre en application. Ouais. C'est ça. Ouais. Dieu nous console. On a, au même titre qu'on a goûté l'amour que Dieu veut qu'on reproduise cette marque-là envers notre prochain, au même titre, on a goûté la consolation de Dieu et on devient aussi une source de consolation pour nos proches. Absolument. Et Paul avait bien compris c'était quoi les souffrances. En commençant même au chapitre 1, on pourrait passer à travers de 2 Corinthiens de voir les souffrances de Paul, même au chapitre 11, avant qu'on lise. Mais je veux terminer avec une question. Si on prend l'exemple de Paul, qu'est-ce qui a rendu Paul capable de dire « Je me plais dans les souffrances » sans avoir de... Oui, ben, vas-y François. Comment? Quand je suis faible, c'est là que je suis fort, parce que Dieu me donne sa grâce. Il y a un point, à un moment donné, où ce switch-là, il doit se faire. Entre le moment où on lutte un peu avec Dieu, puis là, jusqu'au moment de l'acceptation de « je suis présentement dans la souffrance, puis je me plais dans la souffrance ». Qu'est-ce qui a amené Paul exactement? Parce qu'il a compris peut-être avant de comprendre, il a dû expérimenter, hein? Il a dû peut-être expérimenter la faiblesse et là, à un moment donné, abdiquer puis dire « OK, Dieu, agis ». Et là, il a réalisé la puissance de Dieu qui agit en lui à cause de sa faiblesse. Mais qu'est-ce qui peut nous rendre capables, nous aussi, de dire « Même si je suis dans la souffrance, je me plais en Dieu. » Qu'est-ce qui peut nous rendre capables? C'est plus une question rhétorique que je veux vous laisser juste réfléchir pour vous-même. Et puis, parce qu'on va terminer avec ça, on aura l'occasion de rapporter d'autres commentaires. Mais Dieu, dans la souffrance, nous conduit à une nouvelle espérance, à cette espérance-là qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste. Nous conduit aussi à une confiance en lui, puis nous conduit à une nouvelle dépendance de lui, ou à découvrir une nouvelle facette de dépendre de lui, puis de compter, par exemple, sur sa grâce. Parce que quand on est dans la souffrance, on est faible. Tant mieux, parce que Dieu est fort. On termine en priant sur cette parole-là de Paul. Seigneur, on vient devant toi, encore pour te louer, parce que tout ce que tu nous dis, Seigneur, on y croit. Et il y a peut-être des aspects, Seigneur, dans nos vies où on a besoin d'expérimenter ta parole. On a besoin de vivre ce que tu nous dis. Besoin, Seigneur, que cette connaissance que l'on a de toi, de ta parole, devienne concrète dans nos vies. C'est pas toujours évident, Seigneur, particulièrement quand on est dans la souffrance. Mais comme on s'est rappelé ce soir, s'il y a quelqu'un qui comprend notre souffrance, c'est bien toi. Et Dieu, merci de ne pas être insensible à ça. Merci d'avoir tes yeux sur nous, tes oreilles attentives à nous aussi. Puis merci qu'à travers la souffrance, tu nous conduis, comme un berger peut conduire ses brebis, même une brebis blessée. On veut te faire confiance, Seigneur. On veut se souvenir de cette espérance que l'on a en toi. On veut dépendre de toi et on veut le vivre, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.